Est-ce que la médecine moderne est en train de nous tuer? C'est une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi où je vous fais part d'un sujet extrêmement controversé, je le sais d'avance, c'est la vaccination, puisque j'étais parti la semaine dernière dans une démonstration sur les postulats que nous devrions systématiquement examiner. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que tous les postulats de la science sont erronés et sont faux, mais on devrait toujours avoir un doute sain vis-à-vis des postulats de la science et remettre en question systématiquement ces postulats à la lumière des nouvelles découvertes et des nouvelles observations pour voir si on peut encore aujourd'hui affirmer certaines choses, puisque je vous rappelle qu'un postulat c'est quelque chose qui est affirmé sans aucune démonstration et sans aucune observation parfois. D'accord ? Bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire part d'un postulat de la médecine. Au départ, j'avais préparé cette vidéo en vous citant une cinquantaine de postulats qui me paraissent erronés au niveau de la médecine. Et puis finalement, je me suis rabattu sur les vaccins parce que c'est quand même une des questions qui est la plus controversée, qui est la plus compliquée, où il faut discerner le vrai du faux. Et ça me paraissait intéressant de consacrer toute une vidéo à la conclusion provisoire à laquelle je suis arrivé après 33 ans de réflexion, 33 ans de lecture. Et si vous avez envie de contredire mes propos, vous êtes absolument invité à le faire. Nous sommes dans une conversation, mais faites-le de façon intelligente et faites-le en vous référant à des sources d'informations qui ne sont pas des sources biaisées. Alors, ces sources biaisées, elles sont de plusieurs ordres. Ce sont les articles qui sont publiés par les compagnies qui fabriquent par ailleurs les vaccins, parce que comment peut-on faire confiance dans une compagnie pharmaceutique qui fait des milliards de dollars de profit chaque année grâce aux vaccins et qui par ailleurs publie des articles avec des études qui la plupart du temps sont manipulées pour prouver l'efficacité des vaccins? C'est déjà un petit problème. Ces mêmes compagnies, on leur demande de faire des études sur la dangerosité ou l'innocuité, c'est-à-dire la non-dangerosité des vaccins, alors que par ailleurs, elles fabriquent, elles vendent les mêmes vaccins. Donc je trouve que, effectivement, moi, ce n'est pas le genre de littérature auquel je ferai confiance. Je ferai plutôt confiance dans des instances indépendantes, mais véritablement indépendantes, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos, qui étudient la véritable efficacité de la vaccination et des campagnes de vaccination, et qui étudient également la véritable dangerosité ou non-dangerosité des vaccins. Donc, ne venez pas me sortir les articles qui sont publiés par les compagnies pharmaceutiques, je ne les accepte pas parce qu'ils sont non valables. Bien. Ne venez pas me sortir non plus les arguments qu'on vous rabâche à longueur d'année dans les médias dominants, parce que ces médias, vous le savez, sont absolument non libres de dire ce qu'ils veulent en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'énergie, puisque ces médias appartiennent tous, que ce soit la presse écrite, la presse radio ou la presse télévisée, ils appartiennent tous à quelques holdings financières qui par ailleurs ont des intérêts dans l'agroalimentaire, dans l'énergie et dans la pharmaceutique. Donc, vous pensez bien que ces conglomérats financiers qui ont des intérêts dans les secteurs que je viens de vous citer, vont également avoir comme stratégie ou ont eu comme stratégie d'acheter les médias pour que ces médias ne vous lavent le cerveau de façon régulière que dans le sens des intérêts des autres compagnies qui sont possédées par le même holding financier. Je dirais que c'est tellement simple à comprendre que je ne comprends pas que vous continuiez à faire confiance dans les médias dominants alors que ces médias n'ont aucune liberté de parole. D'accord ? Bien. Donc, si vous voulez me traiter d'imbécile, ben je vous vire directement parce que c'est pas comme ça que je conçois une conversation. Si vous voulez m'en poser des arguments, eh bien allez-y, mais faites ce que j'ai fait. et je n'ai aucun intérêt à faire ce que j'ai fait. J'en ai pris plein la gueule depuis plus de 20 ans, depuis même pratiquement 30 ans. J'ai subi une trentaine de contrôles fiscaux depuis 1994. J'ai été traîné dans la boue à plusieurs reprises. J'ai été traité de secte en Belgique, en France, en Suisse. Mon dossier d'immigration a mis 3 ans pour être accepté par les services secrets parce que j'étais traité de secte et j'étais catégorisé comme individu criminel et dangereux par les services secrets français et belges, parce que tout simplement j'ai osé remettre en question le dogme et le postulat de la vaccination, ou le postulat et le dogme de la cancérologie. Bien, mais je reviendrai à la cancérologie un autre jour, pas tout à la fois. Sauf que je me suis rendu compte, lorsque je me suis battu contre le projet de vaccination H1N1 en automne 2009, lorsque j'ai fait des émissions de télévision ou des émissions de radio où on me mettait devant moi des médecins, on m'a mis une fois devant moi le sous-ministre de la Santé du Québec, eh bien tous ces gens-là, je les ai massacrés tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien en matière de vaccination, tout simplement parce qu'on ne leur enseigne rien au moment de leurs études en médecine. Au moment des études en médecine, on leur dit « la vaccination et le principe pasteurien, c'est la plus grande découverte de toute l'histoire de la médecine et c'est quelque chose qui est prouvé, dont l'efficacité est prouvée, ça a sauvé des centaines de millions de vies, point final, on vous demande de vacciner les gens et c'est tout ». Donc c'est à peu près à cela que se résume la formation des médecins en matière de vaccinologie. Et effectivement, j'ai été vérifié dans les facultés de médecine, à la bibliothèque de la faculté de médecine, il n'y a aucun de ces livres que vous voyez à côté de moi qui se trouve disponible à la portée des médecins. Pourtant, la moitié des bouquins qui sont à côté de moi ont été écrits par des professeurs en médecine, par des biologistes, par des immunologues, par des médecins qui se sont rendus compte à un moment donné, par accident, que les vaccins n'étaient pas aussi géniaux et aussi efficaces et aussi peu dangereux qu'on ne leur avait enseigné dans leur formation. Très souvent parce que il y a un certain nombre de médecins parmi ceux qui ont écrit les bouquins, qui ont vacciné leurs propres enfants en toute confiance et se sont rendus compte du jour au lendemain que leurs enfants devenaient autistes, que leurs enfants contractaient des maladies graves, des maladies dégénératives, des maladies comme la sclérose en plaques, etc. Et là, ils ont commencé à réfléchir parce qu'ils ont été touchés personnellement. Donc, je suis tout à fait ouvert à la contestation, mais venez avec des armes qui seront pertinentes, parce que moi, j'en ai des armes qui sont pertinentes, et c'est ça qui m'a permis de massacrer tous les médecins dans mes émissions de télévision en 2009. Alors, quel est le postulat de Pasteur ? Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce que il y aurait énormément à dire, et je pense qu'un jour, je ferai une formation. Rien que sur l'immunologie et les vaccins, parce que et je le ferai en compagnie d'un médecin, comme ça vous aurez la caution scientifique, mais de quelqu'un qui a réfléchi, de quelqu'un qui s'est remis en question. En tout cas, si ce médecin ose faire ce genre de choses, parce que lui, il risque d'être rayé de l'ordre des médecins. Moi, le seul risque que j'ai pris, ce sont les contrôles fiscaux et de me faire lyncher médiatiquement de façon systématique. Y compris pendant la grippe H1N1 où il y a eu 2 émissions consacrées à moi, où j'ai été mais vraiment traîné dans la boue. Et lorsqu'au mois d'avril 2010, les médias ont dit « on a été trompé, finalement il n'y avait pas de pandémie et ça a été une grande manipulation de l'OMS », est-ce que vous croyez que ces médias ont présenté leurs excuses au public qui avait été se faire vacciner ? Est-ce que vous croyez que ces médias ont présenté leurs excuses à Jean-Jacques Rèvecoeur et tous les autres qui ont été traînés dans la boue parce qu'on essayait de prévenir la population à nos propres frais ? Non, ça a été silence radio. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc, Pasteur, chimiste, faussaire, corrupteur, menteur et complètement ignare des choses de la médecine et de la biologie, a imaginé que les microbes étaient les grands ennemis du vivant et il a énoncé un postulat qui était son postulat de départ. Son postulat, c'était de dire que la cellule humaine était aseptique, c'est-à-dire qu'elle était dépourvue de la présence de tout microbe, et que donc s'il y avait des maladies qui se déclarait chez l'être humain, c'est tout simplement parce que il y avait des microbes qui étaient venus de l'extérieur, qui avaient envahi le corps et qui avaient provoqué cette maladie. Donc, avec un postulat comme celui-là, eh bien, le raisonnement était assez logique. Il va falloir lutter contre les microbes. Donc, il va falloir mettre en place un système de défense où on va aider le système immunitaire à créer des anticorps contre les méchants virus qui viennent provoquer les maladies. Donc ça, c'est le postulat de départ de Pasteur. Et je dirais que quelque part, ce postulat n'a jamais été remis en question, malgré le fait qu'à toutes les époques, depuis l'époque de Pasteur, il y a eu des gens beaucoup plus intelligents que Pasteur qui se sont opposés au dogme vaccinal, qui ont démontré que Pasteur se trompait. Et malgré tout, il y avait tellement d'intérêts financiers en jeu que ce postulat n'a jamais été remis en question, même lorsque la virologie moderne et l'immunologie moderne a été trouvée au milieu du XXe siècle. Eh bien, même à ce moment-là, on n'a toujours pas remis en question le dogme vaccinal. Parce qu'on pourrait se demander, oui, mais est-ce que c'est vrai que les microbes sont les ennemis du vivant? Ben non. Non, je dirais, un premier argument qu'on pourrait trouver, c'est que les microbes sont 10 fois plus nombreux qu'il n'y a de cellules dans le corps humain. Donc je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a 100 000 milliards de cellules au niveau du corps humain, et donc on aurait 1 million de milliards de virus, de bactéries et de champignons dans le corps humain. À ce stade-là, si les bactéries, si les microbes étaient véritablement l'ennemi du vivant, ça fait longtemps qu'on serait mort. D'accord ? Or, je pense qu'il faudrait raisonnablement considérer que cet ensemble microbien devrait être considéré plutôt comme un système à part entière, de la même façon que nous avons un système respiratoire, nous avons un système sanguin, nous avons un système nerveux, nous avons un système digestif. Eh bien, on devrait considérer que le corps humain est composé d'un système microbien. C'est pas extérieur au corps humain. C'est un processus de symbiose, si vous voulez. Mais avec toujours cette vision guerrière des méchants virus, des méchantes bactéries qui viennent envahir le corps humain et qui le rendent malade, évidemment, on ne peut pas l'intégrer comme faisant partie de notre réalité, de notre identité. Bien. Autre chose, on a considéré que le système immunitaire était un système de défense, de lutte contre les envahisseurs, alors qu'en réalité, le système immunitaire est bien plus complexe que cela. Le système immunitaire, c'est un système de traitement de l'information qui vient de l'extérieur et où ce système va discerner quelles sont les informations qui arrivent sous forme de polluants chimiques, sous forme de microbes, sous forme d'alimentation, sous forme aussi de vécu émotionnel. Et donc ce système immunitaire va discerner ce qui est utile pour la survie. Dans ce cas-là, il va garder cela en réserve, il va garder ça en mémoire, donc le système immunitaire c'est aussi une bibliothèque, il va activer ce qui est utile pour le corps directement si c'est utile, et il va rejeter ce qui ne présente aucune utilité pour le corps humain, d'accord ? Et c'est là où on se rend compte que, par exemple, dans les maladies infantiles, et ça, ben, tout ce que je vous dis, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des professeurs, des pédiatres, des médecins qui ont compris de façon beaucoup plus, beaucoup plus bienveillante, les mécanismes d'équilibre, d'homéostasie au niveau du corps humain. Les maladies infantiles ne sont pas des maladies qui mettent l'équilibre de l'enfant en danger. Au contraire, les maladies infantiles sont des processus qui permettent au système immunitaire de se construire. Parce que vous ne le savez probablement pas, mais le système immunitaire n'est mature qu'à l'âge de 7 ans. Donc il faut 7 ans pour que le système immunitaire se construise, et un des grands processus de construction du système immunitaire, ce sont justement les maladies infantiles. Donc empêcher les enfants de faire leurs maladies infantiles, c'est contrecarrer le processus de mise en place qui a été prévu depuis des millions d'années pour que nous ayons la capacité autonome de maintenir notre équilibre en toutes circonstances, ou pratiquement dans toutes les circonstances, mais au lieu de cela, on injecte toute une série de produits qui sont des cellules cancéreuses de singes, qui sont l'aluminium, le timérosal, qui est un dérivé du mercure, le squalène et toute une série de résidus de la préparation des virus, en espérant que ça va provoquer une immunisation définitive contre la maladie, qu'on a considéré évidemment comme quelque chose de mal qu'il fallait éradiquer, alors que les processus des maladies infantiles sont des processus qui permettent à l'enfant de se construire au niveau de son immunité. Je l'ai vu avec mes enfants, mes filles qui n'ont pas été vaccinées ont fait la plupart des maladies infantiles, et une fois qu'elles ont terminé leurs maladies infantiles, elles n'ont plus jamais été malades. Mais ce n'est pas par hasard, vous voyez. Et d'ailleurs, les études indépendantes qui ont osé faire une comparaison, parce que ce genre de comparaison n'est jamais fait par les compagnies pharmaceutiques, où on a comparé des populations vaccinées et des populations non vaccinées. Et vous savez pourquoi ces études n'ont jamais été faites à une large échelle par les compagnies pharmaceutiques? Parce que le vaccin, c'est tellement utile pour la santé humaine qu'on ne va pas faire prendre le risque à une partie de la population de ne pas être vaccinée pour qu'on voit à long terme qui sera le plus malade jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais les quelques études qui ont pu être faites, parce qu'il y a certaines populations, certaines franges de population qui, pour des raisons religieuses, ont refusé la vaccination, on se rend compte que ces populations systématiquement sont de très mauvais clients des compagnies pharmaceutiques après l'âge de 6 ans. Ce sont des gens qui ne tombent quasiment jamais malades jusqu'à leur mort. Alors que ceux qui ont été vaccinés dès leur plus tendre enfance deviennent des clients pratiquement perpétuels des compagnies pharmaceutiques. Donc vous comprenez que ce n'est pas demain la veille qu'on va faire ce genre d'études comparatives où on va prendre 100 000 personnes vaccinées, 100 000 personnes non vaccinées, et on va les suivre pendant 40, 50 ans. Parce que la conclusion serait catastrophique au détriment de la vaccinologie et à, je dirais, au profit de la non-vaccinologie. Bien. Donc, les microbes qui sont déjà présents au moment des maladies infantiles ont une utilité de construction du système immunitaire. Donc injecter des produits, c'est ce que je disais, injecter des produits qui sont en plus toxiques dans un corps de bébé qui n'est absolument pas encore capable de traiter l'information avec son système immunitaire, puisque ce système immunitaire n'est pas encore mature, eh bien c'est provoquer à court ou moyen terme des catastrophes sur le plan sanitaire. Plus généralement, on peut se demander, mais à quoi servent les microbes? À quoi servent les microbes? Eh bien, sans entrer dans les détails, parce que ça me demanderait une vidéo complète, et peut-être que je la ferai cette vidéo un jour, c'est qu'on se rend compte que les champignons et les bactéries sont essentiellement les agents éboueurs du corps, alors que les virus sont les agents reconstructeurs du corps. En fait, quand il y a des cellules qui doivent être éliminées, y compris des cellules cancéreuses, eh bien, on va faire intervenir des champignons ou des bactéries qui vont détruire les cellules cancéreuses et les éliminer. Par contre, s'il y a des lésions, s'il y a des fractures, s'il y a des blessures, etc., eh bien, ce sont des virus qui vont intervenir pour réparer, pour reconstruire ce qui a été perdu au niveau de l'organisme. Et donc, en fait, il y a même des chirurgiens japonais qui, il y a une vingtaine d'années, ont commencé à systématiquement mettre un certain type de virus au moment où ils réparaient des fractures, et ils se rendaient compte que les fractures se réparaient 3 à 4 fois plus vite en présence de ces virus, parce que les virus sont des agents de reconstruction du corps. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche systématiquement à éliminer les virus ou les bactéries du corps ou des champignons? On se le demande. Bien, alors qu'est-ce que je vous avais encore préparé, évidemment? La conséquence de tout ça, c'est que, effectivement, comme le système immunitaire des enfants n'est pas mature avant l'âge de 7 ans, le principe vaccinal, ça ne marche pas, tout simplement. Parce que si le principe vaccinal marchait, on ne devrait pas faire autant de rappels à l'âge de 6 ans, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 40 ans. Savez-vous qu'il y a un pays pour l'instant qui est l'Argentine, où on est en train de regarder un programme expérimental? C'est un programme qui obligerait les êtres humains à se vacciner de façon régulière de la naissance jusqu'à la mort, avec la mise en place d'un carnet vaccinal qui serait obligatoire et qui serait le document que vous devriez présenter chaque fois que vous voulez faire une démarche administrative. Par exemple, un extrait d'acte de naissance, ou un mariage, ou un emprunt hypothécaire, ou des choses comme ça. Donc bientôt, en Argentine, si il n'y a pas de révolution populaire avant cela, eh bien, la population sera obligée de se faire vacciner de la naissance à la mort, c'est-à-dire de se faire rendre malade de la naissance à la mort. On se rend compte que, alors vous allez me dire, oui, mais enfin, quand même, les maladies infantiles ont pratiquement disparu grâce à la vaccination. Ça, de nouveau, c'est de la propagande pro-vaccinale, mais qui n'est fondée absolument sur aucune donnée. Parce que quand on regarde les données dans différents bouquins, dont celui-ci qui est un très très vieux bouquin et qui montre que finalement, vous voyez, les courbes de décroissance sont extrêmement claires. Et vous avez des courbes de décroissance dans des populations vaccinées et des populations non vaccinées, ça descend exactement de la même façon. On se rend compte aussi que avant l'introduction du vaccin, 90% de la mortalité liée aux maladies infantiles ou des maladies infectieuses avait déjà disparu. Tout simplement parce qu'on avait amélioré les conditions sanitaires, les égouts fermés, l'eau courante, etc., etc. Donc en fait, l'hygiène ayant été améliorée, pratiquement la mortalité liée aux maladies infectieuses a disparu bien avant qu'on introduise les vaccins. Et puis je vous rappelle quand même qu'il y a, il y a plusieurs maladies pour lesquelles il n'existe aucun vaccin qui elles-mêmes aussi ont pratiquement disparu grâce aux mêmes efforts en termes de sanitaire. Bon, alors tout ça, j'espère que ça ébranle vos certitudes et j'espère que ça va vous motiver à lire quelques bouquins. D'ailleurs, je vais vous donner quelques références à la fin, donc restez jusqu'à la fin pour ceux que ça intéresse. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que avec la vaccination, oui, la vaccination, ça marche d'une certaine façon, dans le sens où ça crée un tel stress au niveau de l'organisme que ça empêche maintenant les enfants de faire leur maladie d'enfance. Parce que les maladies d'enfance, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est considéré par la médecine chinoise comme des maladies chaudes. En médecine chinoise, on considère qu'il y a des maladies froides et des maladies chaudes. Les maladies froides, ce sont les maladies que fait l'être humain lorsqu'il est en situation de surstress. Et lorsque le surstress est lâché, parce que la situation est résolue, on sort de la situation de danger, on va passer en situation de récupération, de régénération, de rétablissement, de rééquilibrage. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ou donc c'est le système parasympathique à ce moment-là qui va être mis en activation. Et là, c'est ce qu'on appelle les maladies chaudes. Alors, toutes les maladies d'enfants sont des maladies chaudes, c'est-à-dire ce sont des maladies de rééquilibrage. Quand vous avez de la fièvre, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Lorsque vous êtes en train de faire des petits boutons, des éruptions cutanées, lorsque vous avez de la diarrhée, lorsque vous vomissez, etc., vous êtes en train de faire des maladies chaudes, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Or, en médecine, c'est à ce moment-là qu'on considère que vous êtes malade et qu'il va falloir lutter contre le symptôme. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que lorsqu'on vaccine un enfant, le vaccin a pour objet de créer un surstress au niveau de l'organisme parce qu'on lui fout toute une série de saloperies dans le corps auxquelles il n'est absolument pas habitué de traiter, d'autant plus qu'on passe la première barrière, hein, puisque bon, là aussi je vais pas vous faire tout un cours sur le système immunitaire, mais le système immunitaire a trois barrières successives et normalement la première barrière devrait éliminer les saloperies qu'on injecte en intraveineuse au niveau du corps du bébé ou du corps de l'adulte. Donc en fait là on viole déjà l'être humain en ne respectant pas les trois barrières de protection et de traitement de l'information du système immunitaire. Mais en faisant cela, donc on met le corps en surstress, on démolit aussi son système nerveux, Ça a été prouvé par le médecin, par un médecin ontarien, donc un médecin canadien qui s'appelait Andrew Mulden, quelqu'un que j'ai pu rencontrer personnellement au moment de la grippe H1N1. Et à cette époque-là, il travaillait sur la démonstration que tous les vaccins endommageaient le système nerveux et que donc on pouvait comprendre davantage pourquoi les vaccins peuvent provoquer des maladies comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie et toute une série d'autres maladies dégénératives comme Alzheimer par exemple, parce que oui, si vous en avez marre de vos grands-parents ou de vos parents, conseillez-leur simplement de se vacciner contre la grippe saisonnière 5 ans d'affilée et vous multiplierez par 10 les chances pour eux de contracter la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une étude qui est sortie il y a quelques années, une dizaine d'années, qui montrait qu'entre 60 et 65 ans, quand on se vaccine 5 ans d'affilée contre la grippe saisonnière, on multiplie par 10 les chances de contracter Alzheimer par la suite. Je ferme la parenthèse, mais ça, c'est si vous avez envie de vous débarrasser de vos parents ou de vos grands-parents. Donc Mulden, quand il a fait la démonstration de tout cela, après avoir été rayé de l'ordre des médecins et qu'il était sur le point de publier ses travaux, il a été retrouvé assassiné entre son domicile et la boulangerie où il venait d'aller chercher des petits pains pour son dimanche matin. Voilà. Ça, c'est aussi une façon dont la science médicale est extrêmement ouverte à la contestation et à la contradiction, c'est qu'on élimine les gens qui les empêchent de continuer à faire des milliards et des centaines de milliards de dollars de profit chaque année sur le dos de la santé de la population mondiale. Bien, donc, on met le système nerveux de l'enfant en surstress, on met le système immunitaire qui n'existe quasiment pas, mais on met le corps de l'enfant en surstress. Le mettant en surstress, on l'empêche d'exprimer la maladie chaude qui est la maladie infantile. Donc l'enfant, effectivement, ne va pas faire la maladie infantile lorsqu'il sera petit à cause de la vaccination. Bien. Donc vous me dites, mais alors c'est génial, on a eu ce qu'on voulait. Sauf que ce qu'on observe maintenant, c'est que de plus en plus les maladies infantiles apparaissent entre l'âge de 18 et 25 ans. C'est-à-dire au moment où le stress a commencé à rediminuer, bon après je sais qu'il y a des rappels à l'âge de 6 ans, donc hop, on en remet une couche. Mais à l'âge de 18 ans, il n'y a plus de rappels de certaines maladies comme la rougeole, etc. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien la rougeole va enfin pouvoir s'exprimer. Sauf que lorsque la rougeole s'exprime entre 18 et 25 ans, il y a des conséquences bien plus grave, entre autres pour la fertilité des jeunes hommes qui se retrouvent aux prises avec ce genre de maladie. Vous voyez, mais ça, c'est le genre de choses qu'on ne vous dira jamais dans les médias, qui sont possédées, je vous le rappelle, par les conglomérats financiers qui ont tout intérêt à ce qu'on vous lave le cerveau à propos de cette légende vaccinale. Alors, j'avais envie de terminer en vous montrant à quel point ce postulat pasteurien n'a toujours pas été remis en question, parce que quand on a vu l'apparition du sida au début des années 80, très vite on a lancé l'hypothèse qu'il devait y avoir un virus à l'origine du sida. Finalement on a dit que c'était un rétrovirus et que ce rétrovirus était le HIV, et je suis sûr que vous avez déjà tous vu dans des émissions médicales, dans des revues de vulgarisation ou même dans des revues grand public, une photo du virus HIV. Le problème, c'est que ce virus HIV n'existe pas, n'a jamais été observé et n'a jamais fait l'objet d'une seule publication scientifique à l'heure actuelle. C'est Peter Duisberg qui est un des grands opposants à la théorie dominante au niveau du sida et de l'origine du sida, qui a proposé lors d'un des congrès mondiaux anti-sida il y a plus de 10 ans de cela, il avait proposé une récompense de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux chercheurs qui lui prouverait l'existence du VIH. Évidemment, il a provoqué la risée générale, puisque c'était un congrès qui réunissait les spécialistes du monde entier dans ce congrès mondial sur le sida. Et il a dit, écoutez, moi, voici la preuve que cette somme d'argent est à votre disposition en fidéicommis chez un avocat. Donc, le premier qui m'envoie un article scientifique qui me prouve l'existence du VIH, eh bien, il aura cette récompense. Savez-vous qu'aujourd'hui, personne n'a encore touché cette récompense parce que l'article n'existe tout simplement pas. On n'a jamais isolé le virus VIH, parce que ce virus n'existe pas. J'ai quelqu'un dans mon entourage proche, je ne vous dirai pas qui était il y a quelques années responsable du programme ONU-SIDA dans une partie d'un continent. Je ne dirai pas non plus quel était ce continent, mais donc je connaissais très très bien cette personne qui était très très proche au niveau de mon entourage. Et donc je lui ai demandé un jour, j'ai eu la curiosité de lui demander, ben, toi qui es responsable du programme ONU-SIDA pour des centaines de millions de personnes sur le continent, est-ce que tu pourrais m'envoyer l'article scientifique qui prouve le lien entre l'existence du VIH et puis le lien entre VIH et séropositivité et SIDA. Et cette personne m'a dit, ben, bien sûr, et elle m'a envoyé un magazine grand public américain qui était sorti à l'époque et qui résultait d'une interview de M. Gallo, je ne me souviens plus de son prénom, M. Gallo qui était le concurrent de Luc Montagnier au niveau de la course à l'origine du sida, etc. Et en fait, c'était une interview en disant « Oui, on pense que l'origine, c'est un virus d'immunodéficience humain, donc le VIH, machin, etc. » Et en fait, ça n'a jamais été prouvé. Vous entendez ? Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été observé. Et donc, depuis 1981, on nous emmerde avec un soi-disant VIH qui pourrait se transmettre sexuellement, alors qu'en fait, ce VIH, il n'existe pas. Alors, comment voulez-vous qu'il se transmette ? Alors oui, le sida existe. Par contre, la séropositivité, c'est beaucoup plus problématique puisque le VIH n'existant pas, on se demande ce qu'on détecte lorsqu'on fait une détection de séropositivité. Alors si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo et je vous ferai une vidéo spéciale rien que sur le sida et toute l'imposture liée autour du sida parce que c'est une maladie qui existe, c'est un syndrome qui existe effectivement mais qui n'a absolument rien à voir avec une transmission virale. Dernière chose, vous voyez maintenant on pense de plus en plus que des cancers sont provoqués par des virus ou des champignons ou des bactéries et donc là on est en train d'imaginer qu'on va créer toute une série de vaccins anti-cancer. Hein, ça a déjà commencé avec le vaccin contre le cancer le cancer du col de l'utérus, mais vous savez qu'il n'existe pas un seul article au monde qui prouve le lien entre la présence du virus à papillome et le cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas un seul article qui prouve le fait que le vaccin contre le virus à papillome est efficace en cas de cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas un seul article qui existe. Mais on vaccine maintenant systématiquement les jeunes filles de 9 à 14 ans et les jeunes garçons de 9 à 14 ans parce que un jour, quelqu'un a imaginé qu'on pourrait faire énormément d'argent en faisant croire que le cancer du col de l'utérus, qui est un des cancers les moins mortels chez la femme en plus, et qui est extrêmement bien détecté avec le PAP test, eh bien, on s'est imaginé qu'on allait faire beaucoup de fric en faisant croire qu'il existait un moyen de lutter préventivement contre le cancer du col de l'utérus. Bon, allez, j'ai fini, parce que je pourrais encore vous parler pendant des heures. Hein, ça fait déjà plus de 30 minutes que je vous tiens. Donc, si vous voulez, je dirais, s'il y a quelques livres parmi tous ceux que j'ai lus qui seraient peut-être intéressants, celui-ci me paraît extrêmement intéressant. Hein, je vous laisserai toutes les coordonnées sous la vidéo. Donc, c'est un livre de Eric Ancelet, Pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique. C'est une des explications les plus intéressantes sur pourquoi les vaccins ne fonctionnent pas, pourquoi ils sont inefficaces et pourquoi ils sont dangereux. Ceci, c'est un livre qui a été rassemblé par Neil Miller. Neil Miller, c'est un journaliste scientifique qui s'est amusé à prendre des milliers de références scientifiques. Vous en avez des milliers. Vous voyez, c'est des pages, des pages et des pages et des pages. Donc, toutes des références scientifiques. Et il a regardé maladie après maladie ce qu'il en était au niveau du vaccin. Vaccine Safety Manual. Je trouve qu'effectivement, c'est un excellent manuel d'autodéfense lorsqu'on veut commencer à se faire une opinion plus objective sur la question des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, alors il y a le résumé de Neil Miller avec le petit pour ceux qui n'ont pas le courage. Il y a les 10 plus gros mensonges sur les vaccins de mon amie, ma regrettée amie Sylvie Simon. C'est très très intéressant de voir les 10 plus gros mensonges à propos des vaccins. D'ailleurs, dans la même collection qui a été arrêtée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a les 10 plus grands mensonges sur le sida. C'est amusez-vous si vous avez hâte d'avoir l'information. Et ça, c'est plus un livre qui est toujours d'actualité. Pourtant, il a été publié en 1975. Ivan Illich, Némésis médical. C'est une critique extrêmement pertinente du système médical moderne et où il démontre à quel point notre santé a été expropriée à des fins de bénéfices financiers. Voilà, donc je suis très très conscient que j'ai été très long et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour regarder une autre façon de remettre en question les croyances, les postulats et les conditionnements. Comment est-ce qu'on s'y prend finalement pour nous conditionner et nous faire croire des choses que nous ne devrions jamais croire si nous voulons garder le pouvoir sur notre propre vie. Alors, à la semaine prochaine.